Frédéric Nietzsche, Généalogie de la morale, première dissertation, bien et mal, bon et mauvais, deuxième partie. 11. Nous ne rencontrons donc ici que des procédés opposés à ceux de l'homme noble, qui, après avoir conçu spontanément et par anticipation, c'est-à-dire tiré de son propre moi, l'idée fondamentale de bon, n'arrive à créer la conception du mauvais qu'en partant de cette idée. Ces deux termes, ce mauvais d'origine aristocratique et ce méchant, distillé dans l'alambic de la haine insatiable, le premier, une création postérieure, un accessoire, une nuance complémentaire, le second, au contraire, l'idée originale, le commencement, l'acte par excellence dans la conception d'une morale des esclaves, quel contraste n'offre-t-il pas ces deux termes mauvais et méchants, tous deux opposés en apparence au concept unique, bon. Mais le concept bon n'est pas unique. Pour s'en convaincre, qu'on se demande plutôt ce qu'est en réalité le méchant au sens de la morale du ressentiment. La réponse rigoureusement exacte la voici. Ce méchant est précisément le bon de l'autre morale. C'est l'aristocrate, le puissant, le dominateur. Mais noirci, vu et pris à rebours, par le regard venimeux du ressentiment. Il est ici un point que nous serons les derniers à vouloir contester. Celui qui n'a connu ses bons que comme ennemis n'a certainement connu que des ennemis méchants. Car ces mêmes hommes qui, inter pares, sont si sévèrement tenus dans les bornes par les coutumes, la vénération, l'usage, la gratitude, et plus encore par la surveillance mutuelle et la jalousie, et qui, d'autre part, dans leurs relations entre eux, se montrent si ingénieux pour tout ce qui concerne les égards, l'empire sur soi-même, la délicatesse, la fidélité, l'orgueil et l'amitié. Ces mêmes hommes, lorsqu'ils sont en dehors de leur cercle, là où commencent les étrangers, l'étranger, ne valent pas beaucoup mieux que des fauves déchaînés. Alors, ils jouissent pleinement de l'affranchissement de toute contrainte sociale. Ils se dédommagent dans les contrées incultes de la tension que fait subir toute longue réclusion, tout emprisonnement dans la paix de la communauté. Ils retournent à la simplicité de conscience du fauve. Ils redeviennent des monstres triomphants qui sortent peut-être d'une ignoble série de meurtres, d'incendies, de viols, d'exécutions, avec autant d'orgueil et de sérénité d'âme que s'il ne s'agissait que d'une escapade d'étudiants, et persuadés qu'ils ont fourni aux poètes ample matière à chanter et à célébrer. Au fond de toutes ces races aristocratiques, il est impossible de ne pas reconnaître le fauve, la superbe brute blonde, rôdant en quête de proie et de carnage. Ce fond de bestialité caché a besoin de temps en temps d'un exutoire. Il faut que la brute se montre de nouveau, qu'elle retourne à sa terre inculte. Aristocratie romaine, arabe, germanique ou japonaise, héros homériques, vikings scandinaves, tous se valent pour ce qui est de ce besoin. Ce sont les races nobles qui ont laissé l'idée de barbares sur toutes les traces de leur passage. Leur plus haut degré de culture en trahit encore la conscience et même l'orgueil. Par exemple, quand Périclès dit à ses Athéniens dans sa fameuse raison funèbre, notre audace s'effrayait un passage par terre et par mer. s'élevant partout d'impérissables monuments, en bien et en mal. Cette audace des races nobles, audace folle, absurde, spontanée, la nature même de leurs entreprises, imprévues et invraisemblables, leur indifférence et leur mépris pour toutes les sécurités du corps, pour la vie, le bien-être, la gaieté terrible, et la joie profonde qu'ils goûtent à toute destruction, à toutes les voluptés de la victoire et de la cruauté. Tout cela se résumait, pour ceux qui en étaient les victimes, dans l'image du barbare, de l'ennemi méchant, de quelque chose comme le vandale. La méfiance profonde, glaciale, que l'Allemand inspire dès qu'il arrive au pouvoir, et il inspire une fois de plus de nos jours, est encore un contre-coup de cette horreur insurmontable que pendant des siècles l'Europe a éprouvée devant les fureurs de la blonde brute germanique. Quoiqu'il existe à peine un rapport de catégorie, et encore moins une consanguinité entre les anciens Germains et les Allemands d'aujourd'hui. J'ai déjà attiré l'attention sur l'embarras d'Hésiode lorsqu'il imagina la succession des âges de la civilisation et chercha à les représenter par l'or, l'argent et les reins. Il ne put échapper autrement à la contradiction que lui offrait le monde homérique, aussi magnifique qu'horrible et brutal, qu'en divisant un âge en deux parties, qu'il fit se succéder l'une à l'autre. D'abord, l'âge des héros et des demi-dieux, de Troie et de Thèbes, tel que ce monde était demeuré dans l'imagination des races aristocratiques, qui voyaient dans ces héros leurs propres aïeux. Ensuite, l'âge des reins, c'est-à-dire le même monde, tel qu'il apparaissait aux descendants des opprimés, des dépouillés, des violentés, de ceux qu'on avait emmenés et vendus comme esclaves. Certes, un âge des reins dur, froid, cruel, insensible, sans conscience, écrasant tout et couvrant tout de son sang. Si l'on admet comme vrai, ce qui aujourd'hui est tenu pour tel, que le sens de toute culture soit justement de domestiquer le fauve humain, pour en faire, par l'élevage, un animal apprivoisé et civilisé. On devrait, sans aucun doute, considérer comme les véritables instruments de la culture tous ces instincts de réaction et de ressentiment par quoi les races aristocratiques, tout comme leur idéal, ont été, en fin de compte, humiliés et domptés. Il est vrai que ceci ne signifierait pas encore que les représentants de ces instincts fussent en même temps ceux de la culture. Le contraire me paraît aujourd'hui non seulement vraisemblable, mais évident. Ce sont ces héros des instincts d'abaissement et de haine, héritiers de tout ce qui, en Europe ou ailleurs, était né pour l'esclavage, ces résidus d'éléments pré-ariens en particulier, ce sont eux qui représentent le recul de l'humanité. Ces instruments de la culture sont la honte de l'homme. Ils font mettre en suspicion la culture même et fournissent un argument contre elle. Il se peut qu'on ait parfaitement raison de ne pas cesser de craindre la brute blonde qui est au fond de toutes les races aristocratiques et de se mettre en garde contre elle. Mais qui n'aimerait pas 100 fois mieux trembler de peur s'il peut admirer en même temps que de n'avoir rien à craindre, mais d'être abreuvé de dégoût au spectacle de l'abâtardissement, du rapetissement, de l'étiolement, de l'intoxication à la quoi l'œil ne peut se soustraire. Et n'est-ce pas là ce qui nous attend fatalement? Qu'est-ce qui produit aujourd'hui notre aversion pour l'homme? Car l'homme est pour nous une cause de souffrance, cela n'est pas douteux. Ce n'est pas la crainte, c'est bien plutôt le fait que chez l'homme, rien ne nous inspire plus la crainte, que la basse vermine homme s'est mise en avant, s'est mise à pulluler, que l'homme domestiqué, irrémédiablement mesquin et débile, a déjà commencé à se considérer comme terme et expression définitive, comme sens de l'histoire, comme homme supérieur. Oui, et encore qu'il ait un certain droit à se considérer comme tel en présence de l'énorme abâtardissement, de la maladie, de la lassitude, de la sénilité qui se sont mises à gangréner l'Europe, à se croire un être relativement robuste, au moins encore apte à vivre et à affirmer la vie. 12. Je ne puis ici étouffer un soupir et refouler un dernier espoir. Qu'est-ce donc qui m'est tout à fait insupportable, particulièrement à moi? De quoi ne puis-je absolument pas venir à bout? Qu'est-ce qui me suffoque et m'abat? Air vicié, air vicié. Quelque chose de malvenu s'approche de moi. Faut-il que je respire les entrailles d'une âme manquée? Que ne supporte-t-on pas en fait de misère, de privation, d'intempérie, d'infirmité, de soucis et d'isolement? Au fond, nous pouvons venir à bout de tout cela tel que nous sommes, nés pour une existence souterraine, pour une vie de combat. On finit toujours par revenir à la lumière. L'on a toujours son heure dorée de victoire. Et l'on se dresse alors, tel qu'on est né, infrangible, l'esprit tendu, prêt à atteindre des buts nouveaux, des buts plus difficiles, plus lointains, tendu comme un arc que l'effort ne fait que tendre davantage. Mais de temps en temps, accordez-moi, si du moins vous existez, par-delà le bien et le mal, ô protection divine, accordez-moi un regard, que je puisse jeter sur quelque être absolument complet, réussi jusqu'au bout, heureux, puissant, triomphant, de la part de qui il y ait encore quelque chose à craindre. Un regard sur un homme qui justifie l'homme, sur un coup de bonheur qui apporte à l'homme son complément et son salut, grâce auquel on pourrait garder sa foi en l'homme. Car voici ce qui en est. Le rapetissement et le nivellement de l'homme européen cachent notre plus grand danger. Ce spectacle rend l'âme lasse. Nous ne voyons aujourd'hui rien qui permette de devenir plus grand. Nous pressentons que tout va en s'abaissant, pour se réduire de plus en plus à quelque chose de plus mince, de plus inoffensif, de plus prudent, de plus médiocre, de plus indifférent encore, jusqu'au superlatif des chinoiseries et des vertus chrétiennes. L'homme, n'en doutons pas, devient toujours meilleur. Oui, le destin fatal de l'Europe est là. Ayant cessé de craindre l'homme, nous avons aussi cessé de l'aimer, de le vénérer, d'espérer en lui, de vouloir avec lui. L'aspect de l'homme nous lasse aujourd'hui. Qu'est-ce que le nihilisme, si ce n'est cette lassitude-là? Nous sommes fatigués de l'homme. 13. Mais revenons à notre sujet. Le problème de l'autre origine du concept bon, du concept bon tel que l'homme du ressentiment se l'est forgé, attend une solution concluante. Que les agneaux aient l'horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n'étonnera personne. Mais ce n'est point une raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu'ils ravissent les petits agneaux. Et si les agneaux se disent entre eux « Ces oiseaux de proie sont méchants » et celui qui est un oiseau de proie aussi peu que possible, voire même tout le contraire, un agneau. Celui-là, ne serait-il pas bon? Il n'y aura rien à objecter à cette façon d'ériger un idéal, si ce n'est que les oiseaux de proie lui répondront par un coup d'œil quelque peu moqueur, et se diront peut-être « Nous ne leur en voulons pas du tout à ces bons agneaux. Nous les aimons même. Rien n'est plus savoureux que la chair tendre d'un agneau. » Exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme telle, qu'elle ne soit pas une volonté de terrasser et d'assujettir une soif d'ennemi, de résistance et de triomphe, c'est tout aussi insensé que d'exiger de la faiblesse qu'elle manifeste de la force. Une quantité de force déterminée répond exactement à la même quantité d'instinct, de volonté, d'action, bien plus. La résultante n'est pas autre chose que cet instinct, cette volonté, cette action même. Et il ne peut en paraître autrement que grâce aux séductions du langage et des erreurs fondamentales de la raison qui s'y sont figées, qui tiennent tout effet pour conditionner par une cause efficiente, par un sujet, et se méprennent en cela. De même, en effet, que le peuple sépare la foudre de son éclat pour considérer l'éclair comme une action particulière, manifestation d'un sujet qui s'appelle la foudre. De même, la morale populaire sépare aussi la force des effets de la force, comme si, derrière l'homme fort, il y avait un substratum neutre qui serait libre de manifester la force ou non. Mais il n'y a point de substratum de ce genre. Il n'y a point d'être derrière l'acte, l'effet et le devenir. L'acteur n'a été qu'ajouté à l'acte. L'acte est tout. Le peuple dédouble, en somme, l'effet d'un effet. Il tient le même phénomène, d'abord pour une cause, et ensuite pour l'effet de cette cause. Les physiciens ne font pas mieux quand ils disent que la force actionne, que la force produit tel ou tel effet, et ainsi de suite. Notre science tout entière, malgré son sang-froid, son absence de passion, se trouve encore sous le charme du langage et n'a pas pu se débarrasser de ces espèces de petits incubes imaginaires qui sont les sujets. L'atome est, par exemple, un de ces incubes, de même la chose en soi de Kant. Quoi d'étonnant si les passions rentrées couvant sous la cendre, si la soif de vengeance et la haine utilisent cette croyance à leur profit pour soutenir avec une ferveur toute particulière ce dogme qui affirme qu'il est loisible au fort de devenir faible, à l'oiseau de proie de se faire agneau. On s'arroge, ainsi, le droit de demander compte à l'oiseau de proie de ce qu'il est oiseau de proie. Lorsque les opprimés, les écrasés, les asservis, sous l'emprise de la ruse vindicative de l'impuissance, se mettent à dire « Soyons le contraire des méchants, c'est-à-dire bon. Et bon, quiconque ne fait violence à personne, quiconque n'offense ni n'attaque, n'use pas de représailles, et laisse à Dieu le soin de la vengeance. Quiconque se tient caché comme nous, évite la rencontre du mal, et du reste, attend peu de choses de la vie, comme nous, les patients, les humbles et les justes. » Tout cela veut dire, en somme, à l'écouter froidement et sans parti pris, « Nous, les faibles, nous sommes décidément faibles. Nous ferons donc bien de ne rien faire de tout ce pourquoi nous ne sommes pas assez forts. » Mais cette constatation amère, cette prudence de qualité très inférieure que possède même l'insecte, qui, en cas de grand danger, fait le mort pour ne rien faire de trop, grâce à ce faux monnayage, à cette impuissante duperie de soi, a pris les dehors pompeux de la vertu qui sait attendre, qui renonce et qui se tait, comme si la faiblesse même du faible, c'est-à-dire son essence, son activité, toute sa réalité unique, inévitable et indélébile, était un accomplissement libre, quelque chose de volontairement choisi, un acte de mérite. Cette espèce d'homme a un besoin de foi au sujet neutre, doué du libre arbitre, et cela par un instinct de conservation personnelle, d'affirmation de soi, par quoi tout mensonge cherche d'ordinaire à se justifier. Le sujet, ou pour parler le langage populaire, l'âme, est peut-être resté jusqu'ici l'article de foi le plus inébranlable, par cette raison qu'il permet à la grande majorité des mortels, aux faibles et aux opprimés de toute espèce, cette sublime du prix de soi, qui consiste à tenir la faiblesse elle-même pour une liberté, tel ou tel état nécessaire pour un mérite. 14. Quelqu'un veut-il plonger son regard jusqu'au fond du mystère, où se cache la fabrication de l'idéal sur la terre? Qui donc en aura le courage? Eh bien, regardez. Voici une échappée sur cette ténébreuse usine. Mais attendez encore un moment, monsieur le téméraire. Il faut d'abord que votre œil s'habitue à ce faux jour, à cette lumière changeante. Vous y êtes. Bon, parlez maintenant. Que se passe-t-il dans ces profondeurs? Dites-moi ce que vous voyez, ô homme des plus dangereuses curiosités. C'est moi maintenant qui vous écoute. Je ne vois rien, mais je n'entends que mieux. C'est une rumeur circonspecte, un chuchotement à peine perceptible, un murmure sournois qui part de tous les coins et les recoins. Il me semble qu'on ment. Une douceur mielleuse englue chaque son. Un mensonge doit transformer la faiblesse en mérite. Cela n'est pas douteux. Il en est comme vous l'avez dit. Après ? Et l'impuissance, qui n'eusse pas de représailles, devient, par un mensonge, la bonté. La craintive bassesse, humilité. La soumission à ce qu'on est, obéissance. C'est-à-dire l'obéissance à quelqu'un dont ils disent qu'il ordonne cette soumission. Ils l'appellent Dieu. Ce qu'il y a d'inoffensif chez l'être faible, sa lâcheté, cette lâcheté dont il est riche et qui chez lui fait antichambre et attend à la porte, inévitablement, cette lâcheté se pare ici d'un nom bien sonnant et s'appelle patience, parfois même vertu, sans plus. Ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger et parfois même le pardon des offenses. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous seuls savons ce qu'ils font. On parle aussi de l'amour de ses ennemis, et l'on sue à grosses gouttes. Après, ils sont misérables, sans doute, tous ces marmotteurs de prières, tous ces faux monnayeurs, quoique tapis au fond de leurs recoins, ils se tiennent chauds. Mais ils prétendent que Dieu les a distingués et élus grâce à leur misère. Ne fouaille-t-on pas les chiens que l'on aime le plus? Peut-être cette misère est-elle aussi une préparation, un temps d'épreuve, un enseignement, peut-être davantage encore, quelque chose qui trouvera un jour sa compensation, qui sera rendu au centuple, à un taux énorme, en or? Non, en bonheur. C'est ce qu'ils appellent la félicité éternelle. Après. Maintenant, ils me donnent à entendre que non seulement ils sont meilleurs que les puissants, les maîtres du monde, dont ils doivent lécher les crachats, non pas par crainte, oh, point du tout par crainte, mais parce que Dieu ordonne d'honorer toutes les autorités, que non seulement ils sont meilleurs, mais encore que leur part est meilleure, ou du moins qu'elle le sera un jour. Mais assez, assez, je n'y tiens plus, de l'air, cette officine où l'on fabrique l'idéal, il me semble qu'elle sent le mensonge à plein nez. Halte, un instant encore. Vous n'avez rien dit encore de ces virtuoses de la magie noire qui savent ramener le noir le plus épais à la blancheur du lait et de l'innocence. N'avez-vous pas remarqué ce qui fait leur perfection dans le raffinement, leur touche d'artiste la plus hardie, la plus subtile, la plus spirituelle, la plus mensongère? Prenez-y bien garde. Ces êtres souterrains, gonflés de vengeance et de haine, que font-ils de cette vengeance et de cette haine? Avez-vous jamais entendu un pareil langage? À n'en croire que leurs paroles. Vous seriez-vous douté que vous vous trouviez au milieu de tous ces hommes du ressentiment? Je vous entends et j'ouvre de nouveau les oreilles. Hélas, trois fois hélas, et me voilà de rechef obligé de me boucher le nez. Ce n'est qu'à présent que je saisis ce qu'ils ont répété tant de fois. Nous autres bons, nous sommes les justes. Ce qu'ils demandent, ils ne l'appellent pas représailles, mais bien le triomphe de la justice. Ce qu'ils haïssent, ce n'est pas leur ennemi, non. Ils haïssent l'injustice, l'impiété. Ils croient et espèrent, non pas en la vengeance, en l'ivresse de la douce vengeance, plus douce que le miel, disait déjà Homère, mais bien en la victoire de Dieu, du Dieu de justice sur les impies. Ce qu'il leur reste à aimer sur terre, ce ne sont pas leurs frères dans la haine, mais à ce qu'ils disent, leurs frères en amour, tous les bons et les justes de la terre. Et comment appellent-ils ce qui leur sert de fiche de consolation dans toutes les peines de l'existence, leur fantasmagorie et leur anticipation de la béatitude à venir? Comment? Est-ce que j'ai bien entendu? Ils appellent cela le jugement dernier, la venue de leur règne, du règne de Dieu. Mais en attendant, ils vivent dans la foi, l'espérance et la charité. Assez, assez. 15. Dans la foi, en quoi? Dans l'amour, dans l'espérance, de quoi? Ces faibles, eux aussi, veulent être quelque jour les forts, il n'y a pas à en douter. Leur règne doit aussi venir quelque jour. C'est ce qui chez eux, répétons-le, s'appelle tout simplement le règne de Dieu. Ils sont si humbles en toutes choses. Rien que pour voir cela, pour vivre cela, il est nécessaire de vivre longtemps par-delà la mort. Oui, il faut la vie éternelle, afin qu'on puisse se dédommager éternellement dans le règne de Dieu, de cette existence terrestre, passée dans la foi, l'espérance et la charité. Se dédommager de quoi et par quoi? Le Dante s'est, à ce qu'il me semble, grossièrement mépris lorsque, avec une ingénuité qui fait frissonner, il grava au-dessus de la porte de son enfer cette inscription. Moi aussi, l'amour éternel m'a créé. Au-dessus de la porte du paradis chrétien et de sa béatitude éternelle, on pourrait écrire, en tous les cas à meilleur droit, Moi aussi, la haine éternelle m'a créé. En admettant qu'une vérité puisse briller au-dessus de la porte qui mène à un mensonge. Car qu'est-ce donc que la béatitude de ce paradis? Peut-être pourrions-nous déjà le deviner. Mais il vaut mieux donner la parole à une indiscutable autorité en telle matière. Au grand maître saint Thomas d'Aquin. Beati in regno coelesti, dit-il avec la douceur d'un agneau, videbond poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat. Ou bien veut-on entendre quelque chose d'un ton plus violent, la parole d'un père de l'Église triomphant, qui déconseillait à ses fidèles les voluptés cruelles des spectacles publics? Et pourquoi? La foi, dit-il, des spectaculis, la foi nous offre bien davantage quelque chose de beaucoup plus fort. Grâce au salut par le Christ, nous avons à notre portée des joies bien supérieures. En place des athlètes, nous avons nos martyrs. Nous faut-il du sang? Eh bien, et celui du Christ? Mais qu'est tout cela à côté de ce qui nous attend le jour de son retour, le jour de son triomphe? Et voilà ce visionnaire extatique qui continue. On lit la traduction française du texte de Tertullien. D'autres spectacles vous restent. C'est le jour du jugement, jour éternel, jour que n'attendent pas les nations. Jour qu'elles insultent, jour enfin où la terre, avec ses monuments antiques et ses créations nouvelles, disparaîtra dans un seul et même incendie. Ô immense étendue de ce spectacle, que me faut-il admirer? Où dois-je promener mes regards? Quelle joie, quel transport, en voyant tant de célèbres monarques que la flatterie plaçait dans le ciel! Poussés d'horribles gémissements au fond des ténèbres de l'enfer, où ils sont précipités avec Jupiter lui-même et tous ses témoins. Quelle allégresse en voyant tant de gouverneurs, tant de magistrats persécuteurs du nom chrétien, se fondre dans les flammes qui, mille fois plus intolérables que celles qu'ils ont allumées autrefois contre les chrétiens, insulteront à leur douleur. Ajoutez tant d'orgueilleux philosophes, glorieux autrefois de leur vaine sagesse, réduits aujourd'hui à rougir devant leurs disciples et à brûler avec eux. Qu'ils viennent encore ces docteurs insensés, persuader à leurs auditeurs qu'il n'y a point de providence, que notre âme est une chimère et que jamais elle ne rentrera dans le corps qu'elle animait autrefois. Ajoutez enfin tant de poètes tremblants d'épouvante, non plus à l'aspect d'un Radamante ou d'un Minos imaginaire, mais devant le tribunal de Jésus-Christ, effrayante nouveauté pour eux. C'est alors que les acteurs tragiques pousseront dans l'immensité de leur propre infortune des cris plus lamentables et plus déchirants. C'est alors que les bouffons se feront mieux reconnaître à la nouvelle subtilité qu'ils auront acquise dans les flammes. C'est alors que les cochers des cirques attireront nos regards environnés de feu sur des chars de feu. C'est alors que nous verrons des gladiateurs tomber non plus sous les javelots du gymnase, mais sous les traits enflammés du ciel. Mais non, j'aime mieux attacher un insatiable regard sur ces monstres d'inhumanité qui s'attaquèrent autrefois au Seigneur. Le voilà, leur dirai-je, ce fils d'un charpentier ou d'une mère qui vivait du travail de ses mains. Note. À partir de cet endroit, Tertullien entend parler des Juifs, comme le prouvent tous ceux qui suivent, et en particulier cette désignation de la mère de Jésus, connue d'après le Talmud. Le voilà, ce destructeur du sabbat, ce samaritain, ce possédé du démon. Le voilà, celui que vous avez acheté du perfide Judas, celui que vous avez déchiré sous vos coups, insulté par vos soufflets, déshonoré par vos crachats, abreuvé de fiel et de vinaigre. Le voilà, celui que ses disciples ont dérobé secrètement pour propager le mensonge de sa résurrection, ou qu'un jardinier a déterré furtivement, afin d'empêcher, sans doute, que les laitues de son jardin ne fussent foulées aux pieds par la multitude des passants. Pour vous mettre sous les yeux de pareils spectacles, ou vous donner des joies si enivrantes, que peut la libéralité d'un prêteur, d'un consul, d'un pontife? Et cependant, ce drame magnifique se joue devant nous en quelque façon, puisque la foi le rend déjà présent aux yeux de l'esprit. Au reste, où trouver des paroles pour exprimer des biens que l'œil n'a point vus, que l'oreille n'a point entendus et que le cœur de l'homme n'a jamais pu imaginer? Note. Ici, Tertullien cite Paul, Corinthiens 1, 2, 9. N'en doutons pas, ils surpassent infiniment les joies du cirque, des deux amphithéâtres, du stade et de tout ce qu'on peut imaginer de semblable. Fin du texte de Tertullien. Père Fidem, car ainsi il est écrit. 16. Arrivons à notre conclusion. Les deux valeurs opposées, bon et mauvais, bien et mal, se sont livrées en ce monde, pendant des milliers d'années, un combat long et terrible. Et bien que depuis longtemps la seconde valeur l'ait emportée, aujourd'hui encore, il ne manque pas d'endroits où la lutte se poursuit avec des chances diverses. On pourrait même dire que, depuis lors, elle a été portée toujours plus haut, et que par ce fait, elle est devenue toujours plus spirituelle. En sorte qu'il n'y a peut-être pas, aujourd'hui, de signes plus distinctifs pour reconnaître une nature supérieure, une nature de haute intellectualité, que la rencontre de cette antinomie dans ses cerveaux, qui présente, pour de telles idées, un véritable champ de bataille. Le symbole de cette lutte tracée dans des caractères restés lisibles au-dessus de toute l'histoire de l'humanité, c'est Rome contre la Judée contre Rome. Il n'y eut point, jusqu'à ce jour, d'événements plus considérables que cette lutte, cette mise en question, ce conflit mortel. Rome sentait, dans le juif, quelque chose comme une nature opposée à la sienne, un monstre placé à son antipode. À Rome, on considérait le juif comme un être convaincu de haine contre le genre humain. Avec raison, si c'est avec raison, que l'on voit le salut et l'avenir de l'humanité dans la domination absolue des valeurs aristocratiques, des valeurs romaines. Quel sentiment éprouvaient, par contre, les Juifs à l'égard de Rome? 1000 indices nous permettent de le deviner, mais il suffit de se remettre en mémoire l'Apocalypse de saint Jean, le plus sauvage des attentats écrits que la vengeance ait sur la conscience. Il ne faudrait d'ailleurs pas estimer trop bas la logique profonde de l'instinct chrétien pour avoir associé précisément ce livre de haine au nom du disciple d'amour. Ce même disciple à qui on attribua la paternité de l'évangile d'amoureuse exaltation. Il y a là une part de vérité, quelle que soit, d'ailleurs, l'énormité de la falsification littéraire mise en œuvre pour atteindre ce but. Les Romains étaient les forts et les nobles. Ils l'étaient à un point que jamais jusqu'à présent sur la terre il n'y a eu plus fort et plus noble, même en rêve. Chaque vestige de leur domination, jusqu'à la moindre inscription, procure du ravissement, en admettant que l'on sache deviner quelle main était à l'œuvre. Les Juifs, au contraire, étaient ce peuple sacerdotal du ressentiment par excellence, un peuple qui possédait dans la morale populaire une génialité qui n'a pas son égale. Il suffira de comparer aux Juifs des peuples doués de qualités voisines, comme par exemple les Chinois et les Allemands, pour discerner ce qui est de premier ordre ou ce qui est de cinquième ordre. Lequel des deux peuples a vaincu provisoirement, Rome ou la Judée? Mais la réponse n'est point douteuse. Que l'on songe plutôt devant qui, aujourd'hui, à Rome même, on se courbe comme devant le substratum de toutes les valeurs supérieures, et non seulement à Rome, mais sur toute une moitié de la terre, partout où l'homme est domestiqué, ou tend à l'être, devant trois Juifs, on ne l'ignore pas, et devant une Juive, devant Jésus de Nazareth, devant le pêcheur, Pierre, devant Paul qui faisait des tentes, et devant la mère du susdit Jésus, nommé Marie. Voilà un fait bien remarquable. Sans aucun doute, Rome a été vaincue. Il est vrai qu'il y a eu pendant la Renaissance un réveil superbe et inquiétant de l'idéal classique, de l'évaluation noble de toute chose. La Rome ancienne elle-même se met à s'agiter, comme si elle se réveillait d'une léthargie, écrasée comme elle l'était par une Rome nouvelle, cette Rome judaïsée, édifiée sur des ruines, qui présentait l'aspect d'une synagogue œcuménique et que l'on appelait Église. Mais aussitôt la Judée se mit à triompher de nouveau, grâce à ce mouvement de ressentiment allemand et anglais, foncièrement plébéien, que l'on appelle la Réforme. Sans oublier ce qui devrait en sortir, la restauration de l'Église, et aussi le rétablissement du silence de tombeau sur la Rome classique. Dans un sens plus décisif, plus radical encore, la Judée remporta une nouvelle victoire sur l'idéal classique, avec la Révolution française. C'est alors que derrière la noblesse politique qui subsistait encore en Europe, celle des XVIIe et XVIIIe siècles français, s'effondra sous le coup des instincts populaires du ressentiment. Ce fut une allégresse immense, un enthousiasme tapageur, comme jamais on en avait vu sur la terre. Il est vrai qu'il se produisit tout à coup, au milieu de ce vacarme, la chose la plus prodigieuse et la plus inattendue. L'idéal antique se dressa, en personne, et avec une splendeur insolite, devant les yeux et la conscience de l'humanité. Et encore une fois, mais d'une façon plus forte, plus simple, plus pénétrante que jamais, retentit, en face du mot d'ordre mensonger du ressentiment, qui affirme la prérogative du plus grand nombre, en face de la volonté de l'abaissement, de l'avilissement, du nivellement et de la déchéance, en face du crépuscule des hommes, le terrible et enchanteur mot d'ordre contraire de la prérogative du petit nombre. Comme une dernière indication de l'autre voie, apparut Napoléon, homme unique et tardif si jamais il en fut. Et par lui, le problème incarné de l'idéal noble par excellence, qu'on réfléchisse bien au problème que cela est, Napoléon, cette synthèse de l'inhumain et du surhumain. 17. S'en était-il fait à partir de cette époque? Cette antithèse dans l'idéal, grandiose entre toutes, Fut-elle pour jamais reléguée ad acta, ou bien ajournée à une époque lointaine? Ne verra-t-on pas quelque jour le vieil incendie se ranimer avec plus de violence encore parce qu'il a été si longtemps contenu? Bien plus, ne devons-nous pas désirer cela de toutes nos forces, le vouloir même? Ne devons-nous pas y contribuer? Celui qui, en cet endroit, se met à réfléchir comme font mes lecteurs, à approfondir sa pensée, aura de la peine à en venir à bout. C'est pour moi une raison suffisante pour en finir moi-même, car j'aime à croire que, depuis longtemps, on a deviné ce que je veux, ce que j'entends par ce mot d'ordre dangereux que j'ai mis en tête de mon dernier ouvrage, par-delà le bien et le mal, cela ne veut du moins pas dire par-delà le bon et le mauvais. Remarque. Je saisis l'occasion que m'offre cette première dissertation pour exprimer publiquement et formellement un vœu dont jusqu'à présent je n'ai fait part qu'à quelques savants au hasard des conversations. Il serait désirable qu'une faculté de philosophie, par une série de concours académiques, se rendît utile à la propagation des études d'histoire de la morale. Peut-être ce livre servira-t-il à donner une impulsion vigoureuse dans cette direction. En prévision de la réalisation de ce vœu, je propose la question suivante. Elle mérite l'attention des philologues et des historiens, non moins que celle des philosophes de profession. Quelles indications nous sont fournies par la linguistique, et tout particulièrement par les recherches étymologiques pour l'histoire de l'évolution des concepts moraux? D'autre part, il serait non moins nécessaire de gagner à l'étude de ces problèmes la participation des physiologistes et des médecins. Je veux dire les problèmes de la valeur des appréciations qui ont eu cours jusqu'ici. Dans ce cas particulier, comme dans d'autres cas, on pourra laisser jouer aux philosophes de métier le rôle de porte-parole et de médiateur, après qu'ils ont réussi à transformer les rapports pleins de méfiance qui existaient entre la philosophie, la physiologie et la médecine, en un sympathique et fructueux échange d'idées. En effet, il faudrait avant tout que toutes les tables des valeurs, tous les impératifs dont parle l'histoire et les études ethnologiques fussent éclairées et expliquées par leur côté physiologique avant qu'on essaie de les interpréter par la psychologie. Il s'agirait en outre de les soumettre à un examen de la part de la science médicale. La question « Que vaut telle ou telle table des valeurs, telle ou telle morale ?» demande à être posée sous les perspectives les plus différentes. On ne peut surtout pas mettre assez de discernement et assez de délicatesse dans l'étude du but des valeurs. Une chose qui aurait, par exemple, une valeur évidente en ce qui concerne la plus grande capacité de durée d'une race, ou bien par rapport à l'augmentation de la faculté d'adaptation à un climat déterminé de cette race, ou encore à la conservation du plus grand nombre, n'aurait nullement la même valeur lorsqu'il s'agirait de créer un type de force supérieure. Le bien du plus grand nombre et le bien du plus petit nombre sont deux points de vue d'évaluation absolument opposés. Nous laisserons à la naïveté des biologistes anglais la liberté de considérer le premier comme supérieur en soi. Toutes les sciences devront préparer dorénavant la tâche du philosophe de l'avenir. Cette tâche consiste, pour le philosophe, à résoudre le problème de l'évaluation, à déterminer la hiérarchie des valeurs.